Édition spéciale. Philippe Le Caplain.
Deux grands connaisseurs de Cuba et de Castro sont avec nous dans ce studio. Bonsoir, Jeannette Abel.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris 3. Et vous êtes avec nous également, Stéphane Witowski. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Alors, le socialiste Jack Lang vient de déclarer, aux yeux des militants de ma génération, il incarnait Castro, l'esprit de résistance à l'impérialisme américain et la volonté de construire par la révolution une société plus juste. Castro qui avait, lui, clamé ceci il y a de ça quelques années.
Révolution, oui. Coup militaire, non. Coup d'État, en accord avec Batista, non. Voler la victoire au peuple, non.
Pas de confiscation de la révolution, pas de dictature, semblait promettre Fidel Castro. Finalement, le héros est devenu dictateur. Dictateur brutal qui a opprimé son propre peuple, déclarait tout à l'heure Donald Trump. Alors, Jeannette Abel, Stéphane Witowski, héros ou dictateur, que retiendra l'histoire de cet homme ?
Je trouve que Donald Trump est assez mal placé pour porter un tel jugement. Et on verra, en tous les cas, j'ai pour ma part aucun doute sur ce que l'histoire retiendra de Fidel Castro et de Donald Trump. Et je crois que de Donald Trump, elle ne retiendra pas grand-chose ou pas grand-chose de bon.
On verra bien. Mais pour ce qui est de Castro.
Mais l'histoire retiendra que Fidel Castro a été en premier lieu quelqu'un qui, un, a renversé une vraie dictature, celle de Batista, deux, qu'il a établi, qu'il a gagné pour son peuple pour la première fois au XXe siècle une véritable souveraineté nationale, une véritable indépendance nationale, trois, qu'il a conquis pour son peuple beaucoup de conquêtes sociales, qu'il a conquis beaucoup de conquêtes, qu'il a en tous les cas gagné en justice sociale, qu'il a imposé effectivement une éducation gratuite, qu'il a modifié pour son ensemble la société cubaine, que la santé gratuite à Cuba a été un exemple pour de nombreux pays. Alors après, il y a effectivement une conception du pouvoir qui est une conception autoritaire, qui est une conception qui parfois a été despotique. Je n'aime pas parler de dictature pour une seule raison. C'est pas Hitler, ça n'est pas Pinochet, ça n'est pas Ceausescu, ça n'est pas Staline. Et donc quand on dit dictature, on dit rien. D'autant plus qu'il s'agit là, il faut quand même le rappeler, dans un contexte géopolitique qui est radicalement différent, d'abord d'une révolution authentique, qui n'a pas été imposée par les armées, par l'armée rouge ou par quelconque armée, et deuxièmement, parce qu'il s'agit là de quelqu'un qui a représenté les aspirations de tout son peuple et de l'Amérique latine, et on va le voir au moment des obsèques. Donc, effectivement, un pays, mais par ailleurs, et je voudrais terminer, sur le problème des libertés démocratiques.
On y reviendra tout à l'heure.
Un pays en guerre, dès le début, avec un tout petit pays, et donc en guerre, comme en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme après la Deuxième Guerre mondiale, les libertés démocratiques en prennent un coup. Alors, ce qui est vrai, c'est que ce qui était le cas au début de la Révolution, c'est trop prolongé.
Ça Stéphane Witowski...
Et encore faut-il distinguer les deux étapes.
Est-ce que vous distinguez, vous, ces deux étapes? Est-ce que vous pensez que l'histoire retiendra la nuance, si je puis dire, en tout cas ces deux phases?
Non, je crois qu'on ne peut pas classer les pays en deux catégories, d'une manière un peu binaire, entre démocratie d'un côté, dictature de l'autre. La personnalité et la caractéristique de Fidel Castro et de Cuba, c'est que c'est un régime qui échappe à toutes les classifications politiques de la science politique. Fidel Castro est issu d'une révolution populaire et nationale en 1959. C'est une personnalité qui a... Bien évidemment, son charisme légendaire et aussi sa curiosité intellectuelle, mais c'est rare de voir dans l'histoire de l'humanité, je dirais, qu'une personnalité qui réunit des caractéristiques aussi diverses, c'est-à-dire à la fois un intellectuel, un rebelle, un révolutionnaire, un stratège militaire assez hors pair, un génie de la communication politique, un homme d'État, un diplomate et... par bien des aspects, un visionnaire sur un certain nombre d'aspects. Et c'est pour ça qu'il laissera une trace dans l'histoire bien au-delà de Cuba, bien au-delà de l'Amérique latine, d'une manière générale, sur les questions environnementales. Le sommet de Rio 92 sur l'environnement, ça avait été probablement le discours d'un chef d'État le plus visionnaire et le plus précis sur l'avenir de la planète. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui sort totalement des sentiers battus, qui laissera incontestablement une trace dans l'histoire du XXe siècle, mais probablement du XXIe siècle, et c'est quelqu'un qui est absolument hors norme et dont la personnalité fascine aussi bien des gens de droite ou de gauche, des hommes ou des femmes, et des amitiés aussi importantes que celles de Nelson Mandela, Jean-Paul II, le pape François, des intellectuels, des prix Nobel, dans tous les domaines. Imaginez, est-ce que ça aurait été vraiment un dictateur épouvantable qu'on le décrit parfois?
Alors, peut-être parce qu'il y a une sorte de romantisme révolutionnaire attaché également à cette période-là et à Fidel Castro. La même image, finalement, qui est accolée à celle de Che Guevara. Pour autant, il y a des t-shirts Che Guevara, il n'y a pas de t-shirt Fidel Castro. Pourquoi, Jeannette Abel?
Absolument. Il y en a un qui est mort à 39 ans, qui est mort... abattu par des soldats de l'armée bolivienne qui avaient quitté le pouvoir, tous les attributs du pouvoir, tous les privilèges du pouvoir, qui était quelqu'un dont la culture et l'intelligence étaient exceptionnelles. Et ça n'est pas Fidel Castro. Fidel Castro est resté 50 ans au pouvoir, là probablement trop longtemps. Fidel Castro, par ailleurs, est quelqu'un qui n'avait pas les... Je pense que les conceptions des deux hommes n'étaient pas les mêmes et que c'est pour ça aussi que Guevara est parti. Parce qu'il y a eu cette chose très particulière, très complexe à Cuba de la part de Fidel Castro. Il a pensé sauver le pays, parce que c'est un pays qui n'aurait pas survécu sinon au début en s'appuyant sur l'Union soviétique. Mais en s'appuyant sur l'Union soviétique, il en a adopté aussi, du point de vue institutionnel en tout cas, les pires travers. Et ces travers font que le pays en souffre encore, du point de vue justement des libertés démocratiques, des droits démocratiques. Et Guevara était critique à l'égard de tout ça. Et le problème, c'est qu'entre les deux hommes, l'un a cru sauver la révolution, il est resté au pouvoir, et il a bien fallu qu'il fasse face à toutes les hostilités extérieures auxquelles il était confronté. L'autre est parti, donc il est parti après 6 ans. Donc il a une image infiniment, si vous voulez, c'est pas la même chose d'avoir une image, l'image d'un mort à 39 ans et mort dans ces conditions-là, à qui on ne peut rien reprocher de ce point de vue, et de rester au pouvoir avec tout ce que cela suppose.
Votre opinion là-dessus?
Je crois qu'il y a une grande différence entre les deux hommes. Autant il y a une sorte de culte de la personnalité, une vision idéaliste, romantique autour de Che Guevara, qui a été effectivement développée par Jeannette Abel, et qui existe. Ça, c'était une vérité, une réalité. Fidel Castro n'a jamais exercé, ni de près, ni de loin, ni organisé un culte de la personnalité concernant Fidel Castro. Il n'y a pas de place Fidel Castro, d'avenue Fidel Castro,
Il est juste dans toutes les conversations, et
oui,
quand vous allez à la Havane,
mais
vous sentez bien
il ne l'a jamais organisé, à la différence de beaucoup d'autres dirigeants dans le monde. Et pour une petite anecdote, il y a quelques années, je l'avais rencontré avec des hommes d'affaires français, et nous avions parlé justement de la question de sa propre mort. Et il avait dit à ce moment-là, on parlait à la fois du pouvoir, de l'exercice du pouvoir politique, de l'argent, qui ne l'intéressait pas, et des honneurs. Il était totalement indifférent aux honneurs, et il se moquait ces maréchaux soviétiques qui croulaient sous les décorations, etc. Et il disait, de toute façon, nous finirons tous, citant un vers de José Martí, le père de l'indépendance cubaine, nous finirons tous comme un grain de maïs dans l'univers. Et c'était une façon de dire, et c'est intéressant, ça fait un écho à l'annonce des obsèques, à la différence de beaucoup de pays où on expose le corps du défunt avec des troupes autour, enfin des foules autour. C'est pas le cas.
Non,
il
doit être
la crémation
dans les heures qui viennent.
Immédiatement, rapidement, ça a été fait.
Et les cendres
donc
dispersées autour de lui.
Ça, c'est quand même symboliquement très important par rapport au cul de la personnalité. Et deuxièmement, ça évoque cette espèce de grain de maïs dans l'univers. Et le fait que il sera enterré.
Le grain de maïs, c'est pas tout à fait conforme à l'image non plus.
C'est une image, comment vous dire, du caractère un peu vain des honneurs et qui ne l'intéressait pas spécialement. Et le fait qu'il sera effectivement enterré à Santiago, aux côtés de José Martí, parce qu'il y a une filiation très importante au-delà de la Révolution, avec le message et la pensée de Marty. Et je crois qu'il y a cette filiation très importante. Ce qui fait l'intérêt, la caractéristique de Fidel Castro, c'est qu'il incarne non seulement l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, mais il a su s'approprier en partie l'identité nationale cubaine.
Et ça,
c'est très intéressant.
Et il a quand même été un des symboles de la guerre froide avec cet affrontement Est-Ouest, soutenu par Khrouchtchev et bien évidemment l'URSS, l'Union soviétique, hein, jusqu'à son effondrement en 91. Il a survécu d'ailleurs lui-même et son régime à l'effondrement de l'URSS. Et il a donc tenu tête à 11 présidents américains, dont Kennedy, c'est la fameuse crise des missiles en 1962 et qui s'est soldée par un embargo. Un embargo qui dure encore aujourd'hui. Écoutez ce que François Hollande a dit tout à l'heure à ce propos.
Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. Il a suscité beaucoup d'espoir avec la révolution cubaine. Il a été pour beaucoup de peuples d'Amérique latine et pas seulement un moment, une référence. Il y a eu aussi des désillusions. Mais il a toujours voulu, avec fierté, défendre Cuba par rapport à toutes les pressions extérieures, et notamment à ce qu'était l'embargo qui frappait son pays. Et même si j'ai à plusieurs reprises dénoncé les manquements aux droits de l'homme à Cuba, j'ai toujours considéré que l'embargo était une décision unilatérale inacceptable.
L'embargo, donc, est toujours en vigueur. Les républicains bloquent sous Obama. Ils continueront très certainement à le faire sous Trump. Pensez-vous, l'un et l'autre, que l'élection de Trump enraye la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis?
Écoutez, je reviens des États-Unis et je pense que... On n'est pas à l'abri des changements de pied de Donald Trump. On a déjà vu qu'il a modifié certaines de ses déclarations antérieures. Enfin, la dernière déclaration qu'il a faite, plus ce qu'il avait déjà dit à plusieurs reprises, fait craindre qu'il y ait une modification. Alors, est-ce qu'il va revenir complètement sur la normalisation, sur le rétablissement des relations diplomatiques? Ça, c'est pas certain, encore que, parce que les républicains bloquent même la nomination de l'ambassadeur, hein, à Cuba, la personne qui actuellement fait fonction d'ambassadeur, mais qui n'est pas officiellement nommée comme telle. Difficile encore à savoir, mais enfin, il y a parmi les républicains un sénateur en Floride, qui est un cubano-américain, Marco Rubio, qui était donc candidat à l'élection présidentielle, et qui lui est partisan d'annuler complètement tout ce qui a été fait, y compris le rétablissement des relations diplomatiques. C'est pourquoi, avec Cuba, c'est pourquoi je crois qu'on est dans un moment, une conjoncture tout à fait exceptionnelle à Cuba, parce que se cumulent plusieurs variables, plusieurs coordonnées qui rendent le moment présent très compliqué.
Stéphane Wyszkowski, vous pensez qu'on peut revenir en arrière, que Trump peut revenir en arrière sur eh bien cet événement, hein, qui date d'il y a 2 ans, il y a même eu cette visite officielle de Barack Obama. Vous pensez qu'il peut y avoir un coup d'arrêt et un retour en arrière?
Je pense que ça sera difficile. Les Cubains et la diplomatie cubaine observent actuellement Trump. C'est-à-dire qu'ils ont félicité. Ils attendent les décisions précises avec qui il va gouverner, et en particulier sur la politique cubaine. Il y a 2 possibilités. Premier scénario, c'est effectivement que les personnalités comme Ted Cruz ou Marco Rubio aient le rôle important au sein du Congrès républicain, effectivement, risquent de bloquer et de faire peser l'orientation de Trump par rapport à Cuba. L'autre aspect, c'est que lorsqu'on regarde l'élection de Floride, la majorité, certes, l'État de Floride était républicain, mais la majorité de la communauté cubano-américaine était en faveur d'Hillary Clinton. Et d'autre part, les lobbies, en particulier agricoles et pharmaceutiques, le poids de la Chambre de commerce américaine, le sort de patronat, milite pour une levée de l'embargo. Et d'autre part, évolution de l'opinion publique américaine, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs de la société civile, plaident pour, justement, une poursuite de la normalisation, avec quand même 2 problèmes importants. La question de la levée de l'embargo et, deuxièmement, la question du statut de Guantanamo, qui sont d'ailleurs 2 aspects qui n'ont rien à voir avec la guerre froide, précisons-le.
Vous écoutez RFI en édition spéciale après la mort de Fidel Castro.
Édition spéciale, Philippe Le Caplan.
Voilà, des klaxons, des cris de joie, des slogans Cuba libre, liberté, liberté, des selfies, des concerts de casseroles, des embrassades. C'était à Miami, le fief des exilés cubains, à l'annonce donc de la mort de Fidel Castro. Il faut savoir qu'environ 2 millions de Cubains vivent aux États-Unis. 70% d'entre eux sont installés en Floride. Qui sont ces gens, des gens qui ont été persécutés, qui ont dû s'exiler, Jeannette Abel?
Non, une minorité, oui, mais la grande majorité sont des exilés économiques, et notamment depuis l'effondrement soviétique, parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'exilés. La première vague, c'est la grande bourgeoisie, on va dire ça comme ça, cubaine, qui s'en va après la chute de Batista. Une partie d'entre elles était d'ailleurs liée à la dictature. Mais ensuite, on a, avec les crises successives et les difficultés économiques, on a de très nombreuses vagues d'immigration, et la majorité de cette immigration est une immigration économique qui part aux États-Unis parce qu'elle y a de la famille, parce qu'elle espère y trouver un emploi, parce que la situation est trop difficile à Cuba. C'est aussi le cas des jeunes, parce qu'on est actuellement dans un contexte difficile du point de vue économique et social, et parce que je dirais que ce qu'on peut retenir de l'héritage de Fidel Castro, et ça c'est l'aspect en partie critique, et il faut avoir la rigueur de le dire, après la chute de l'Union soviétique, il n'a pas compris. Vous n'avez pas bien compris les raisons de cet effondrement. Et il est resté dans une configuration qui est une configuration très liée au XXe siècle, c'est quand même un homme du XXe siècle, dans laquelle finalement les véritables raisons de l'effondrement soviétique, il ne les a pas bien analysées et il ne les a pas bien expliquées même à Cuba. Et par conséquent, il n'a pas tiré les leçons non plus de cet effondrement, y compris du point de vue de l'exercice du pouvoir politique.
Et donc, ce qui a justifié aussi une immigration politique, en quelque sorte. Qui fait... Zoé Valdés est une romancière cubaine. Elle est née en 59, l'année même de l'arrivée au pouvoir de Castro. Ironie de l'histoire, elle est sans doute l'opposante cubaine la plus connue dans le monde. En janvier 95, elle a été contrainte à l'exil pour insoumission au régime castriste.
Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La fiction fidèle ». Et je m'occupe dans ce livre d'expliquer un peu la personnalité de cet homme qui était un dictateur, mais qui était aussi, pour beaucoup de gens, une espèce de héros révolutionnaire éternel. Et je sens un immense soulagement en tant qu'être humain, mais en même temps aussi, je pense à d'autres gens, des gens qui ne sont plus là, qui ont été assassinés par lui, par sa dictature, par son frère. Et aussi, je pense à pas mal d'écrivains qui sont morts sans pouvoir vivre ce moment-là et vivre surtout cette sensation de libération. C'est une sensation de libération.
Voilà, jointe par Elisabeth Lequerrez, Zoé Valdés, qui a publié La fiction fidèle. L'opposition, est-ce qu'il faut s'attendre à une démocratisation, Stéphane Witowski, à une ouverture politique, à un plus grand respect des opposants, voire à la prise en compte de leurs revendications?
Je crois que la question ne se pose pas en ces termes, d'abord parce que Fidel Castro n'exerce plus ses fonctions depuis quelques années. Donc Raúl Castro exerce son pouvoir.
Mais il était encore un symbole.
C'est un symbole, mais ça ne change rien par rapport à la politique au quotidien. Raúl Castro exerce ses fonctions, termine son second mandat présidentiel en 2018, et donc cette génération historique quittera la scène en 2018. Donc après, il y aura une nouvelle page qui va s'ouvrir, et les successeurs, quels qu'ils soient, devront prouver que leur légitimité devra effectivement être justifiée auprès de la population. Et ça sera beaucoup plus compliqué.
Et on aura certainement l'occasion d'en parler avec vous à nouveau, Stéphane Witowski, du Conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Merci à vous également, Jeannette Abel, politologue.
Graphisme, data journalisme, financement participatif, interactivité, nouveau format. Vous travaillez dans un média qui innove et vous souhaitez le faire savoir? Alors n'attendez plus. Participez à la seconde édition du prix francophone de l'innovation dans les médias qui encourage les nouvelles manières d'informer, organisé par l'OIF, RSF et RFI. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre. Plus d'informations sur francophonie.org, rsf.org et rfi.fr.
les camaraderie socialiste, mais en même temps, je pense que la presse officielle fera bien attention de ne pas mettre trop en valeur le rôle de Cuba par rapport à celui du MPLA et du président actuel dans les grands moments de la lutte durant la guerre froide.
Est-ce que du fait de cette histoire partagée, il reste une relation spécifique entre l'Angola et Cuba ?
Non, actuellement, sur le plan diplomatique, il n'y a pas de relation particulière. Le gouvernement angolais, pour autant qu'il n'ait jamais été véritablement socialiste, a vraiment fait un virage très important déjà au début des années 90, tournant le dos officiellement à l'idéologie marxiste. C'est depuis le début des années 90, voire avant, ouvert du point de vue économique aux investisseurs de tous bords, et notamment aux investisseurs américains, maintenant aux investisseurs chinois. Donc il y a beaucoup d'autres partenaires qui sont bien, bien plus importants que Cuba. Cuba reste important plus dans la mémoire de la conquête du pouvoir en 75 et ensuite de certains éléments de la guerre froide, mais sans plus.
Didier Péclard, maître de conférence à l'Université de Genève, avec Laura Martel. Hasta siempre la révolution pour toujours, un slogan qui résonne dans le bouche africain dès le milieu des années 70, de l'intervention cubaine en Angola au soutien de La Havane aux militants anti-apartheid. La présidence sud-africaine a rendu ce matin hommage à Fidel Castro en saluant, je cite, son rôle inestimable dans la lutte pour la liberté, car l'intervention de Cuba en Angola dans les années 70 est la pierre angulaire de cette relation historique, et depuis la chute du régime de l'apartheid en 1994, les deux pays n'ont cessé de resserrer leurs liens. Didier Péclard le disait à l'instant, Nelson Mandela a fait son premier voyage à Cuba après être sorti de prison. Une visite à Fidel Castro, son camarade, son allié et son ami à Johannesburg, Lisa Fabian.
Dans ses mémoires, Nelson Mandela évoque l'influence de Fidel Castro et de la révolution cubaine qui l'ont inspiré dans son propre combat. La lutte contre l'apartheid, la plus belle des causes de l'humanité, déclarait de son côté Fidel Castro. L'intervention de Cuba en Angola et la défaite de l'armée sud-africaine ont contribué à détruire le mythe de l'invincibilité de l'oppresseur blanc et inspirer les masses dans la lutte pour la liberté. Ces mots, ce sont ceux de Nelson Mandela prononcés lors de sa visite historique à Cuba en 1991. L'image de Madiba, point levé aux côtés de Fidel Castro, est restée célèbre. En 1994, Fidel Castro assiste à l'investiture de Madiba en Afrique du Sud. Il reviendra dans le pays en 1998 avec un discours très remarqué devant l'Assemblée nationale, prononcé sous les hurrahs de l'ANC, mais boycotté par les parlementaires blancs conservateurs. Il y a 3 ans, en décembre 2013, cet assaut est lors de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, que le président cubain Raúl Castro et Barack Obama ont échangé une poignée de main historique, le signe déjà qu'une page était en train de se tourner. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI.
RFI 19h, passé de 43 minutes à Paris. La suite de notre édition spéciale consacrée à la mort de Fidel Castro. Castro et l'Afrique. Alors beaucoup de réactions après la mort du leader cubain. Au cours de cette émission, nous irons à Madagascar. Vous le savez, c'est ouvert le 16e sommet de la francophonie en présence de nombreux dirigeants africains. Mais d'abord, écoutons Georges Chicoty, le ministre des Affaires étrangères angolais. Il se souvient que l'intervention cubaine en 1975 a fait basculer l'histoire de son pays et il rend hommage à Fidel Castro.
Je pense que Fidel Castro, c'était un très grand leader pour les pays du tiers-monde, notamment l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud. Et il a gardé une perspective de coopération avec l'ensemble des pays du tiers-monde. Donc je pense que lorsqu'on regarde ses idées révolutionnaires et ses positions pendant toute la période de la guerre froide ont correspondu parfaitement aux aspirations des peuples des pays du tiers-monde. Il a permis quand même l'indépendance d'un certain nombre de pays, mais aussi de garder ses idées actuelles. Donc je crois qu'il s'est battu pour des idéaux qui inspirent jusqu'à aujourd'hui la plupart des pays du tiers-monde.
Quelle était l'importance de Cuba pour l'indépendance d'Angola?
Bon, mais vous savez que Cuba est intervenu en Angola à un moment particulièrement important, au moment où l'Angola était pratiquement encerclée par les troupes sud-africaines de l'apartheid à l'époque. Donc Cuba est intervenu pour marquer la différence et préserver l'indépendance de l'Angola pour les peuples angolais.
Georges Chicoutier, le ministre des Affaires étrangères angolais, avec Cristina Soares. Alors, outre l'Angola, Cuba apporte aussi son soutien à deux autres anciennes colonies portugaises, la Guinée-Bissau et le Mozambique. Nous y revenons avec Michel Cahen.
Le Frelimo, donc, qui est le principal mouvement d'indépendance au Mozambique, a eu toujours une politique de scrupuleux non-alignement. C'est-à-dire que le Frelimo a eu des relations avec Cuba, bien sûr, des relations à l'ONU, des relations de médecins, mais par exemple, il n'y a jamais eu de conseiller militaire cubain dans la guérilla du Frelimo, et même ensuite, très très peu, quelques-uns, mais très très peu, au Mozambique. Il n'y a jamais eu de troupes cubaines au Mozambique, à l'inverse de l'Angola. Donc les relations entre le Frelimo et Cuba sont moins intenses, d'autant plus que le contact entre Che Guevara, qui avant de mourir donc avait fait un grand voyage en Afrique, le contact entre Che Guevara et le Frelimo a été de très très mauvaise qualité. Les Mozambicains trouvaient que Che Guevara était très arrogant, voulait leur apprendre la révolution, n'aimait pas du tout que Che Guevara considérait que eux, les Africains, n'étaient pas des vrais révolutionnaires et qu'ils devaient copier les Cubains. Donc il y a eu des rencontres, notamment à Dar es Salaam, mais on peut pas dire que de ce point de vue-là, le rapport à l'époque donc de Che Guevara, que ça a été un succès. Ensuite, avec Cuba en général, il y a eu un rétablissement de rapports, mais quand même toujours avec cette volonté d'une certaine distance du Frelimo mozambicain par rapport à Cuba.
Que peut-on dire du soutien apporté à la Guinée-Bissau et au Cap-Vert ?
La figure d'Amilcar Cabral, donc le dirigeant, le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, est quelque chose de très important. Amilcar Cabral a été un des plus grands intellectuels africains du XXe siècle. En même temps, donc, ça a été un militant révolutionnaire qui n'était pas communiste, qui n'était pas marxiste. Il a même dit explicitement qu'il n'était pas marxiste, que le marxisme n'était pas adapté à la Guinée et au Cap-Vert. Mais il n'empêche qu'il y avait un véritable respect de la direction politique cubaine pour des gens comme Amilcar Cabral. Alors, d'une part, il y a eu un soutien à l'ONU. D'autre part, il y a eu des boursiers. Cuba, avant comme après l'indépendance, a reçu beaucoup de boursiers africains. Et puis, il y a aussi une solidarité par le biais de l'envoi de médecins dans la guérilla. Alors ensuite, quand les pays sont devenus indépendants, ça devient beaucoup plus contestable, puisque la solidarité de Cuba n'a plus été simplement une solidarité contre la colonisation portugaise, pour la décolonisation, mais la solidarité avec des régimes qui étaient des régimes de parti unique, avec une police politique, avec des répressions, etc. Et Cuba est resté extrêmement fidèle à ces régimes, en continuité de son soutien anticolonial, mais aussi parce que, bien évidemment, pour Cuba, le fait que ces régimes soient des régimes de parti unique n'était absolument pas un problème, puisque Cuba lui-même était un régime de parti unique.
Voilà, Michel Cahen, directeur de recherche au CNRS, avec Laura Martel. Nous allons écouter à présent ce témoignage de Francisca Pereira, cadre historique du PAIGC d'Amilcar Cabral. Elle était responsable de la santé sur le front pendant la guerre d'indépendance en Guinée portugaise. Et vous allez l'entendre, elle est très affectée par la mort de Fidel Castro.
Quand j'ai reçu le nouvelle, je pleurais. Parce que bon, c'est un homme qui a laissé l'histoire, que l'on veuille ou pas, il a laissé l'histoire. Moi, je me rappelle bien, Amilcar Cabral a reçu le commandant Che Guevara à Conakry. C'était en 63, j'étais au bureau de Conakry, j'étais très jeune. Et à partir de cette rencontre, les relations ont commencé entre le PAI et le Cuba. C'est ainsi qu'Amilcar avait visité Cuba vers 65. Après cette visite, Amilcar nous a transmis, il a beaucoup appris avec le président Fidel Castro. Par son expérience qu'il avait vécue déjà, cette expérience nous a beaucoup aidés parce que Amilcar nous a rendu compte de la disposition du président Fidel Castro pour donner tout l'appui nécessaire, pas seulement pour la formation des cadres militaires, comme aussi pour recevoir le jeune aux internats là-bas et donner d'autres formations dans d'autres domaines pour le futur de notre pays. Je me rappelle bien, il y a des jeunes qui sont partis par le bateau, le premier groupe, pour avoir la formation militaire, pour diviser les zones de notre territoire et commencer la lutte de libération. Surtout, nous, on avait reçu des techniciens qui étaient même au fond avec nous, sous le bombardement, sur toute occasion. Temps après, le médecin était venu et là, on a préparé aussi les enfants pour envoyer au collège, surtout les enfants que les parents étaient au front. En 70, moi j'étais partie, je faisais partie d'une délégation de femmes, de la panafricaine de femmes, qui était allée pour assister à la conférence de femmes cubaines. Et le président Fidel Castro avait ouvert cette conférence. J'ai beaucoup appris parce que nous luttons pas seulement pour la libération de notre pays, comme aussi pour l'égalité des femmes. Et là, lui, il avait tout l'appui donné. Alors ça nous a beaucoup encouragé. Et on a beaucoup appris aussi avec eux.
Voilà, Francisca Pereira, cadre historique du PAIGC, d'Amilcar Cabral. Alors, son émotion, on l'a entendu, mais il faut dire aussi que l'annonce de la mort de Fidel Castro a été saluée par des scènes de liesse par la communauté cubaine très importante qui vit en Floride. Et puis Amnesty International dénonce il y a quelques instants, dans un communiqué, la répression systématique des libertés fondamentales à Cuba sous Fidel Castro. Et puis l'un des aspects de l'implication de Cuba en Afrique, c'est aussi sa diplomatie médicale qui consiste encore aujourd'hui à envoyer les médecins cubains dans des pays africains, des médecins réputés pour l'excellence de leur formation. Pierre Pinto.
L'internationalisme médical cubain, c'est le nom de cette politique, est lancé dès les années 60. En Afrique, il trouve sa première concrétisation en 1963 lorsque la Havane envoie à Alger une délégation médicale fournie pour mettre sur pied le système de santé de l'Algérie tout juste indépendante. 40 000 médecins africains auraient obtenu leur diplôme à Cuba, notamment ces dernières années dans la prestigieuse école latino-américaine de médecine de la Havane, créée par Castro en 98. Au total, le pays compte plus d'une vingtaine de facultés de médecine qui dispense gratuitement un enseignement réputé. Lorsque les communistes ont pris le pouvoir en 59, le pays n'en comptait qu'une seule. En 2012, plus de 5000 professionnels de santé cubains travaillaient sur le continent africain. Des personnels qui s'illustrent encore une fois en 2014, lorsqu'éclate l'épidémie d'Ebola. La Havane envoie quelques centaines de ses médecins en Sierra Leone, en Guinée et au Liberia. Mais depuis quelques années, Cuba fait payer cette politique à certains pays, comme l'Afrique du Sud. L'exportation de ses médecins, comme de ses enseignants et de ses sportifs, rapporte au gouvernement cubain plusieurs milliards de dollars chaque année.
Pierre Pinto, envoyé spécial à Madagascar où s'est ouvert le 16e sommet de la francophonie à Antananarive. Et à la tribune, eh bien, seuls deux chefs d'État africains ont rendu hommage à Fidel Castro, Christophe Babouvier.
Lors de la cérémonie d'ouverture ce matin, seuls deux orateurs ont salué la mémoire de Fidel Castro. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est allé dans le registre de l'émotion. « C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre la mort de Fidel Castro », a-t-il dit. Et le président de la République socialiste du Vietnam, Tran Dai Quang, qui a salué Fidel Castro au début de son discours en vietnamien. Pour la petite histoire, personne ou presque dans la salle ne comprenait ce qu'il disait. Mais heureusement, sur les écrans, au-dessus de la tribune, son discours était traduit en français, un peu comme le prompteur d'un karaoké. Son discours était traduit donc, sauf que l'annonce de la mort du révolutionnaire cubain n'étant tombée qu'une heure avant la cérémonie, le protocole vietnamien n'avait pas eu le temps d'ajouter l'hommage au défunt dans le texte en français. Résultat, dans la salle, on a bien entendu le président vietnamien prononcer le mot Castro, et entre dirigeants communistes, c'était bien naturel, sauf à comprendre le vietnamien, on ne savait pas exactement ce qu'il a dit. Voilà donc pour les deux hommages rendus à Fidel Castro à la tribune de cette cérémonie d'ouverture. C'était ce matin. Aucun autre orateur, ni le français François Hollande, ni le malgache R. Razonarmampian, ni le tchadien Idriss Déby, ni le sénégalais Macky Sall, ni la secrétaire générale de la francophonie Michael Jean ne se sont exprimés sur Fidel Castro pendant la cérémonie. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait un certain nombre d'absents à cette cérémonie d'ouverture. En Afrique de l'Ouest, on remarque les absences notamment de l'Ivoirien Alassane Ouattara, du Malien Ibrahim Boubacar Keïta, du Béninois Patrice Talon et du Guinéen Alpha Condé. Nul doute que ce dernier aurait eu une ou deux phrases fortes pour saluer le révolutionnaire cubain. En Afrique centrale, on constate aussi les absences du Camerounais Paul Biya et des deux Congolais Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso. S'il avait été là, ce dernier n'aurait pas manqué de rappeler le soutien que Fidel Castro et lui-même ont apporté côte à côte au régime socialiste du MPLA d'Angola contre le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Mais voilà, Denis Sassou Nguesso n'était pas à Madagascar ce matin. Christophe Boisbouvier, Antananarive, RFI.
Et puis dans les coulisses de ce sommet de la francophonie à Antananarive, cette réaction recueillie s'il s'agit de celle de Ramtane Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères. Il s'est souvenu de sa rencontre et de son échange avec Fidel Castro.
J'ai eu l'immense privilège de le rencontrer le 14 octobre dernier. Et je l'oublierai jamais de ma vie. Un grand leader, quelle modestie, quelle humilité, quelle vision de l'avenir. Un homme qui, évidemment, a loué sa relation avec l'Algérie, avec les leaders algériens de son temps, avec tout le continent africain, mais un humaniste profondément intéressé par l'avenir, par la nourriture du genre humain. Il nous a beaucoup parlé de semences pour améliorer l'approvisionnement de tous les... de tout, pour satisfaire les besoins de tous les foyers, de toutes les familles, de tous les êtres humains. Il a évidemment fixé un regard lucide sur les menaces à la paix, à la sécurité du monde contemporain. Il nous a dit tellement de choses à la délégation algérienne qui a eu donc ce privilège de le rencontrer que personnellement je garderai un souvenir impérissable de cette personne qui en définitive est devenue une légende de son vivant et restera certainement dans la conscience collective des peuples comme une personnalité hors du commun.
Voilà la réaction du chef de la diplomatie algérienne. On va écouter à présent le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat. Il se souvient, lui, de Fidel Castro comme l'icône révolutionnaire qui a marqué son enfance.
Écoutez, il a marqué la jeunesse, notre jeunesse, les gens de notre génération. Je me souviens déjà au collège, au lycée, bon nombre de jeunes prenait comme pseudonyme Castro, donc s'identifier à ces personnages mythiques. Et après 90 ans, je crois qu'il a rempli sa mission, quoi qu'on puisse en dire. Mais il demeure quand même une référence historique dans les luttes de libération. Et donc, toute une génération d'Africains garde une image particulière de cet homme.
Et quand vous étiez étudiant, qu'est-ce qu'il représentait pour vous?
Dans notre jeunesse, nous pensions toujours au courage et ce qu'a pu faire cet homme pour libérer et surtout faire face à une puissance comme les États-Unis. Donc en soi-même, pour le peuple du tiers-monde, c'est quelque chose de très, très, très important.
Moussa Faki Mahamat, le ministre tchadien des Affaires étrangères.
RFI à Antananarivo. 96 FM.
Madagascar accueille donc le 16e sommet de la francophonie, un fauteuil vide dans l'assemblée, celui de Mohamed VI, le roi du Maroc. On y reviendra dans une demi-heure dans la prochaine édition d'Afrique Soir. Sommet marqué par des appels à la lutte contre le terrorisme, à la défense de la Cour pénale internationale. Après l'annonce du retrait de plusieurs pays africains, le Premier ministre canadien a exhorté, lui, les pays du continent à respecter les droits des homosexuels. Et puis le président français, François Hollande, a dit son attachement au respect des constitutions. L'un des temps forts de sa visite dans la grande île a été la cérémonie devant le monument aux morts du lac Anosy à Antananarivo, en hommage aux milliers de tirailleurs malgaches morts pour la France. Enrôlés surtout en 1916, puis lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été nombreux à ne pas rentrer chez eux. Et c'est cet engagement pour la France qui allait déboucher sur le premier soulèvement indépendantiste en 1947, un soulèvement écrasé par une féroce répression. François Hollande.
Ici même, je rends hommage à toutes les victimes des événements de 1947, aux milliers de morts et à tous les militants de l'indépendance de Madagascar qui ont été alors arrêtés et condamnés pour leurs idées. Il y avait parmi ces grandes voix de la Grande Île trois députés qui ont été privés de leur immunité parlementaire et jetés en prison. Comme le député et poète Jacques Rabé Mananjara. Il avait lancé ce cri qui est entré dans l'histoire de la littérature comme d'ailleurs l'un des grands textes de la francophonie, Ansa. C'est un poème fleuve, une forme de lettre d'amour d'un intellectuel engagé pour son île, mais aussi un chant d'espoir pour tous les opprimés.
La France Hollande au micro de Sophie Malibaud. Dans le reste de l'actualité africaine, la RDC avec un important déploiement sécuritaire dans tous les points de rassemblement prévus par la campagne Bye Bye Kabila. Finalement, une vingtaine d'activistes ont pu échapper à la vigilance policière et distribuer des tracts rappelant le contenu de l'article 64 de la Constitution, article qui appelle tous les Congolais à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. Un journaliste de la presse étrangère venu couvrir l'activité a été brièvement interpellée avant d'être libérée. Et puis l'actualité en Afrique, c'est aussi cette attaque, cet attentat survenu aujourd'hui en Somalie. À Mogadiscio, au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Une voiture piégée a explosé près d'un poste de contrôle de sécurité. Aucune revendication pour l'instant, même si les soupçons se portent sur les islamistes Chebab. Nous y reviendrons.